Chapitre 5. Subhadra subissait les assauts d'un orage interminable, à en juger par la lenteur avec laquelle Tanuja poursuivait sa nouvelle. Elle avait beau y mettre toute son énergie, son récit était un rocher géant qu'elle ne parviendrait jamais à pousser jusqu'au sommet, tel Sisyphe. Il était 16h45 précises, lorsqu'elle eut l'intuition de parvenir enfin au stade tant attendu dans son récit. Le mieux était de s'accorder une pause et de se libérer l'esprit afin de laisser s'exprimer son inconscient. Elle effectua une sauvegarde et éteignit son ordinateur. Elle s'était toujours laissée guider par son intuition. Qu'il s'agisse d'un roman ou d'un texte plus court, elle ne planifiait pas l'histoire. Pas plus qu'elle n'esquissait ses personnages sur un document à part avant de commencer à écrire. Elle se lançait, entraînée par la petite voix de son inspiration. Un peu comme si elle s'était trouvée en communication téléphonique avec une puissance créative supérieure. La communication était directe, c'est vrai. Mais elle ne se manifestait pas sous la forme de phrases toutes faites. Il s'agissait plutôt d'images, de séquences oniriques, de hiéroglyphes émotionnels, de vers énigmatiques qu'il lui fallait ensuite traduire en une fiction compréhensible de tous. Curieusement, la voix qui lui parlait s'exprimait pour une fois avec de vraies phrases. Le samedi soir est fait pour prendre du bon temps. Amuse-toi. Oublie un peu Subhadra et son orage. Habille-toi et sors. Sois heureuse, et les mots couleront de source demain. Elle s'était étonnée dans un premier temps de la clarté limpide de la voix, mais celle-ci ne la perturbait plus du tout à présent. Elle repoussa son fauteuil, se leva, et quitta son bureau sans même éteindre la lumière. Le moment était venu d'agir, quelles que soient les mesures à prendre. Inutile de réfléchir, elle laisserait parler son intuition. Elle monta dans sa chambre et se mit en quête d'un coffret noir en bois laqué, muni de charnières en argent, qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle savait trouver dans son dressing. Elle ne voyait rien là de paradoxal. Il était temps d'agir. Elle comprendrait par la suite de quoi il retournait. Elle s'installa devant sa coiffeuse, souleva le couvercle, et tira du coffret un collier orné de crânes humains miniatures, de minuscules onyx enchâssés dans les orbites. Un travail magnifique, d'une grande délicatesse. Le coffret contenait également 4 bracelets d'or ravissants, en forme de cobra. Durga, la déesse mère du panthéon hindou, dissimulait des travers sombres derrière le paravent bienveillant de son statut maternel. Elle était en particulier capable de se métamorphoser en Kali, une déité revêtue d'un manteau d'obscurité, uniquement parée de bracelets en or et d'un collier de crâne humain. L'hindouisme ne fait aucune distinction entre le sacré et le profane. Tout sur terre est le reflet du divin. Kali, elle-même une variante de Durga, était capable de laisser place à la terrible Chandi. Cette dernière, représentée le plus souvent avec 4 bras levés, en lieu et place des 8 bras de Kali, tenait dans ses mains une épée, une corde, un spectre, ainsi qu'une tête humaine coupée. De toutes les divinités hindoues, seule Kali possédait la maîtrise du temps et se montrait capable de tuer les démons. Tanuja Shukla ne partageait pas les croyances de ses parents disparus. Mais il lui arrivait d'évoquer la mythologie hindoue dans ses livres, de façon métaphorique, par souci du pittoresque, ou bien avec l'intention de créer une atmosphère mystérieuse, sans la moindre connotation religieuse. Quitte à croire en une déesse, elle aurait choisi Durga, et non Kali. Mais le collier était trop beau, et elle l'accrocha autour de son cou.